Radio Kapi, Grand Témoin.
Il est le premier pilote congolais et président de l'association des pilotes de ligne du Congo. Le commandant Ildefonse Ilunga Mikanda est aujourd'hui l'invité de Grand Témoin. Commandant Ilunga, soyez le bienvenu.
Merci.
Êtes-vous prêt pour le décollage?
Oui, si, la checklist est déjà faite, oui.
Je vous prie d'attacher votre ceinture.
On peut y aller.
Vous avez 30 ans d'expérience comme pilote en ligne à Air Congo, Air Zaire et Lac. Nous allons aborder les différents contours de votre parcours au cours de cette émission. Le 16 décembre 1940, vous voyez le jour à Kambov, dans la province du Katanga. Votre certificat primaire, vous le décrochez à Jadoville, l'actuel Likasi, à l'Institut Panda. Ensuite, vous faites 6 ans des humanités gréco-latines au collège Saint-Grégoire-le-Grand à Lubumbashi, où vous deviendrez diplômé. Qu'est-ce que le commandant Ildefonse Ilunga peut dire de son enfance?
Oui, mon enfance, je dois dire, était assez calme, parce que j'ai, en dehors de l'école primaire, j'ai plus passé mon temps à l'internat, où en principe j'ai eu une discipline de père bénédictin, qui a fait que, j'étais parmi les miens, et même mes aînés, qui étaient là aussi également avec nous. C'était une formation assez rigoureuse, assez rigide même d'ailleurs, et je dois dire que j'ai pu adopter une attitude dans ce collège, même quand je suis parti à l'Athénée, on n'est pas dit que j'avais complètement terminé au collège, j'ai dû terminer à l'Athénée.
Quel genre d'enfant étiez-vous? Vous étiez calme, mais était-ce le genre toujours premier de classe, toujours assidu, toujours au bon endroit, au bon moment?
Non, c'est-à-dire que j'ai nagé parmi les 8 premiers de la classe. J'étais assez calme, bien sûr. Je ne peux pas dire que j'étais très intelligent. Ça, ça serait me donner trop de fleurs. Mais enfin, je faisais la fierté de l'école et même de la famille.
Pendant qu'on y est, qu'on parle de l'école, citez-nous quelques noms d'amis d'enfance que vous avez encore à l'esprit.
Oh, j'en ai beaucoup. Hein.
Quelques noms, juste
d'accord, je vous donnerai par exemple Kanyama Félix, qui est le PDG de Chevchanik. Vous avez Kabongo, comment ça s'appelle, Gabriel, qui est professeur à l'université de Mekin. Vous avez des gens comme Benyam Bouchabani, qui était comme gouverneur de Chevchanik, qui est mon aîné. Des Kassongo Joseph, qui est aussi avocat, ils sont mes aînés. Médecin Kouba, qui est aussi de mon collège, mais qui sont plutôt mes jeunes.
Les auditeurs auront compris que la liste n'est pas exhaustive. Commandant Ilunga, racontez-nous une anecdote d'enfance. On sait que quand on grandit à l'internat, on n'a pas toujours les mains propres, entre guillemets. Une petite anecdote.
Oui, là, j'aurais difficile à retrouver parmi toutes mes péripéties que j'ai connues, que ce soit au collège ou bien à la maison. Enfin, ce qui m'avait quand même frappé un peu dans notre collège, hein, c'était quand je suis arrivé, il y avait pourtant des aînés, Fassongo Morton, par exemple, les Nimbo Chabani qui étaient avant nous, hein, et les Bernard Mouinda qui sont morts avant moi. Mais quand nous sommes arrivés en deuxième phase, il y a une chose que nous avons trouvée, c'est que quand il fallait commencer, par exemple, la langue grecque, où on nous disait que non, les Noirs ne peuvent pas faire le grec. Même quand on devait commencer à faire les mathématiques, surtout la géométrie. Là, c'était encore une histoire. Non, le noir ne peut pas faire la géométrie. Mais quand nous l'avons fait, nous avons démontré que cela était possible. Voilà, ça, ce sont des grandes anecdotes que je peux dire que j'avais rencontrées à l'époque.
Quels souvenirs vous gardez de Jadoville, Likasi, dans les années 60, 50? Comment était la ville de Likasi?
Ah, c'était une ville, je vous assure, excellente, une ville propre. Une ville vraiment où il y avait de l'ambiance, même si vraiment elle était plutôt fort occupée par des Européens en ville, hein, mais même nous qui étions quand même dans les cités. Je vous assure, la propriété qu'il y avait dans cette ville n'est pas ce que j'ai vu 30 ans après.
Radio Kapi, Grand Témoin.
Il est le premier pilote congolais, premier commandant congolais également du DC-10 et président de l'Association des pilotes de ligne du Congo. Le commandant Ildefonse Ilunga Mikanda est aujourd'hui l'invité de Grand Témoin. Commandant Ilunga, après vos études, vous faites une année spéciale maths à Neuchâtel en Belgique et 3 ans d'école d'aviation civile à Grimbergen, toujours en Belgique, où vous aurez votre diplôme de licence. Comment vous arrivez en Belgique et comment vous, jeune Congolais, vous vivez cette expérience?
L'arrivée en Belgique était bien sûr voulue par Air Congo, hein, qui nous avait recrutés à l'époque. Hein, et ils nous avaient dit que la formation des pilotes se faisait en Europe, spécialement en Belgique et à la Sabena. Et c'est là que moi, quand je suis arrivé, il y avait déjà 6 candidats pilotes qui étaient là. Et on nous a d'abord envoyé à Saint-Hubert, où on devait faire le planeur. Et c'est là que j'ai découvert pour la première fois d'ailleurs le pilotage. Du coup, à peine arrivé, je ne savais même pas d'ailleurs ce que j'allais faire sur la plaine de Saint-Hubert.
Parce que vous souhaitiez devenir commis de bord, vous.
À ce moment-là, l'idée même des commis de bord était déjà oubliée, hein, parce qu'on m'avait dit, maintenant c'est pour devenir pilote. Bien que j'avais un peu peur du fait que j'étais comme l'aîné de la famille. Et pour mes parents, je me disais, papa risque de m'en vouloir. Et quand je suis parti d'ailleurs, je n'avais même pas dit à mes parents que j'allais pour les études de pilote. J'ai justement dit non, je pars en Belgique pour faire des études. Mais dire pilote, je crois que j'allais soit être maudit ou j'allais même avoir des engueulades de mon père. Mais arrivé sur place, quand on m'a surpris d'abord à Saint-Hubert, c'est qu'on est arrivé, directement on m'a mis dans un planeur et j'étais en l'air. Et c'est là que j'ai découvert. Je me suis dit, ah, donc c'est ça, le métier des pilotes. Je me trouvais dans un autre monde par rapport à ce que je voyais sur Terre. Et là, j'ai pris coup directement. Mais je ne savais pas que je pouvais continuer plus loin. Mais c'est au fur et à mesure, maintenant qu'on nous entraînait, parce que l'instructeur que j'ai trouvé était un Français, un type vraiment très dur, très coriace, ça, il voulait nous décomplexer, ne pas nous faire voir que parce que c'est nous, parce que c'est moi, nous ne pouvions pas le faire. Lui, pour lui, c'était un homme, c'est un pilote, voilà. C'est quelqu'un qui doit absolument faire le pilotage. En étant en Belgique, quand nous sommes arrivés, d'abord, nous étions bien accueillis. Hein. Le voyage était très bien fait, puis l'accueil était très bien. Nous étions supportés par, d'abord, la compagnie nationale, et nous étions boursiers. Et on nous faisait même voir le standing de pilote, ce que nous devions être. On nous apprenait même comment nous devions même nous comporter dans la vie. Et on nous faisait même sentir la responsabilité qui nous attendait demain.
Des études gréco-latines, comment vous tombez dans le pilotage?
En faisant les études gréco-latines, il y avait une branche qui était réservée à ceux-là qui étaient des philologues, disons. Hein. Ils devaient passer absolument une année spéciale de mathématiques, pendant laquelle je ne faisais que des mathématiques du matin au soir. Après ça, on faut juger si vous étiez en mesure d'assimiler le scientifique. Mais il faut dire qu'ils ont beaucoup loué les études que j'ai faites au Congo, parce que les résultats qu'ils ont vus en moi, ça dépassait les normes. Il ne faut pas s'imaginer qu'un noir pouvait arriver à ce niveau-là.
Après vos études en Belgique, vous revenez au pays, mais comment le président Mobutu vous avait-il découvert?
C'est une longue histoire.
Alors, brièvement.
J'essaie vraiment de résumer, mais je vous assure, c'est une longue histoire. Bon, j'ai commencé par dire que quand nous sommes arrivés en 1966, le directeur général de l'époque n'a pas voulu nous garder à Kinshasa. Parce qu'il y avait l'équipe des pilotes blancs qui était ici, mes collègues blancs. Le directeur général sentait qu'on allait nous saboter. On allait même nous décourager, parce qu'il fallait être sur des gros avions, et avant d'être lâché, on allait peut-être passer des vies dures en tant que pilote sur les DC-4. Tandis qu'à Lubumbashi, il y avait une section de petits porteurs. Et là, lorsqu'on est lâché, on est seul à bord. Donc il fallait absolument qu'on aille à Lubumbashi. Et l'idée vraiment était géniale. Nous, on ne savait pas du tout. Comme nous venions de Bruxelles, après avoir été lâchés sur un bimoteur, petit porteur, du genre Baron B-55 qui se trouve à Lubumbashi, il s'est dit, ils vont s'adapter peut-être très facilement avec cet avion. Et c'est ce qui est arrivé. Nous sommes arrivés à Lubumbashi, nous avons trouvé cet avion, nous étions lâchés, il n'était pas question de voler avec des passagers. Nous n'avions pas assez d'heures, effectivement, pour devenir commandant de bord. Parce que nous devions rentrer en Belgique, il fallait 1500 heures de vol. On nous a donné maintenant la possibilité de voler avec cet avion à travers toute la République, de façon à compléter nos 1500 heures de vol. Et voilà que nous, par cette gymnastique-là, un jour nous sommes retrouvés à Mojmaï, en venant des Kananga. Et nous ne savions pas que le président Mobutu aussi tournait dans les environs. Il était en tournée présidentielle. Et à Mojmaï, quand nous avions fini, nous revenons sur le tarmac et nous rencontrons nos deux amis que nous connaissions à l'époque, c'était Maître Kamanda et Jacques Bangoma. L'un était conseiller politique et l'autre était conseiller économique. Alors Mobutu nous verra avec Kamanda et Bangoma. Il appela les deux pour dire, mais je vous vois parler avec des gens là-bas, c'est qui? Alors eux lui diront, non, ce sont deux pilotes. Comment deux pilotes? Il dit, non, ce sont des pilotes congolais. Il dit, quoi, il y a des pilotes congolais ici? Ah, il dit, oui, Mobutu nous fera venir. Alors il était très étonné, il dit, mais voilà, il y a des choses qui ne tournent pas rond ici. Des pilotes volent dans mon pays. Et moi, président de la République, je ne suis pas au courant.
Vous étiez devenu si populaire au point que Taboulay Rochereau vous a immortalisé avec d'autres pilotes en vous lançant dans une chanson dont je vous invite à suivre un extrait.
Maybe I want to know how
Alors, commandant Ilunga, je vous ai vu beaucoup d'émotions. Hein. Qu'est-ce que ça vous rappelle?
Bon, d'abord, je dois vous dire que c'est Pepe Ndombé qui avait dédié cette chanson. Et c'est à l'époque de la révolution en comparaison, comme je viens de vous dire, que nous subissions ce changement de mentalité. Il fallait absolument qu'on sache quand même que les Noirs sont à même de faire quelque chose. Si je dis Noir, bon, c'est parce que nous avons la peau noire. Hein, mais il fallait que cet homme qui a quand même...
Peut-être valorisé.
Mobutu se battait pour ça. Et il voulait toujours montrer aux Congolais que, voilà, on a dit que nous n'étions pas capables. Voici aujourd'hui... des métiers comme le pilotage, j'ai des pilotes aujourd'hui, il a cité bien sûr nos noms au stade. Quand on lui demandait combien il en avait, Mobutu était toujours un homme qui aimait beaucoup se vanter. Au lieu de dire que j'en ai deux, à l'époque, on n'était pas nombreux. Pour lui, il a dit, il n'a pas bangobébo.
C'est-à-dire qu'il en avait plusieurs.
Alors,
avec le président Mobutu, vous avez fait le tour du monde. Vous avez aussi participé au périple royal belge, à l'opération guerre de 80 jours, à l'opération turquoise. Nous allons nous déplacer de ce studio, commandant Ilunga, pour nous rendre chez vous, où ensemble, vous nous avez expliqué quelques photos souvenirs.
Nous sommes dans votre salon et nous remarquons beaucoup de photos.
Les photos, bien sûr, il y en a de tout ça.
Et on remarque que c'est la maison d'un pilote. Il y a des petits avions, ça c'est une fusée.
Ça c'est l'avion spatial, la navette spatiale qui avait atterri la première fois. Et en passant par le Cap Kennedy, j'ai pu ramasser bien sûr une maquette.
Et l'avion que nous voyons là en miniature, c'est quel avion?
Bon, le petit en miniature, c'est le 777. Parce que après mon décédiste, je pensais un jour, si le pays était bien doté, que j'allais voler sur cet avion de mes rêves, qu'on appelait le 777.
En parlant des photos, il y a même une photo sur laquelle vous êtes avec le colonel Mouammar Kadhafi. C'était à quelle occasion?
C'est le jour où nous sommes allés avec le président Mobutu en mode présidentiel de l'OUA. Et nous sommes partis de l'Alger pour Tripoli. La première fois, bien sûr, que Kadhafi est monté à bord de notre avion à l'invitation du président Mobutu, il tenait absolument à lui montrer que lui, dans son pays, il y avait du progrès. Et il avait des pilotes, uniquement des pilotes anglais. Il était fier. C'est à ce moment-là que moi, je suis allé impressionné. Même si vous croyez que j'étais un noir américain, parce que j'étais pour avoir répondu, non, j'étais entièrement congolais. Il m'a donné des compliments à Mouammar Kadhafi, que j'étais absolument.
Alors, des photos de la gestion, est-ce que nous pouvons voir la cuisine et voir madame?
Oui, j'ai aucune vente avec la cuisine, madame est d'ailleurs d'être là.
Alors, nous nous dirigeons vers la cuisine. Madame, pouvez-vous présenter aux auditeurs de Radio Catholique?
Oui, effectivement, la femme du commandant.
Alors, madame, nous sommes dans votre cuisine. Il y a le bruit que vous entendez là, c'est le congélateur. Le commandant quitte son plat.
Il a bien mangé les cailles, accompagné avec les bananes françaises. Il a bien mangé les cochons, accompagné toujours avec les bananes.
C'est pas si compliqué que ça.
Alors, sur le feu, là, c'est qu'est-ce que vous lui préparez aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est des poissons que j'ai arrêté de prendre. C'est quoi, on se charge?
Ah, ok.
Alors, envoyez-lui un message à partir de ça, je peux te dire.
Je l'aime.
Voilà. Merci beaucoup, madame.
Commandant, il défonce Ilunga. Qu'est-ce que vous retenez de vos 33 ans de carrière comme pilote de ligne?
Oui, je retiens d'abord une carrière qui était formidable, que j'aurais pu terminer en beauté. Malheureusement, je dois vous dire que je suis vraiment peiné et triste. Cette carrière où j'ai voulu non seulement la faire seule, mais surtout la laisser avec des jeunes pilotes après moi, dans une école au sein de la compagnie ou bien dans la République démocratique du Congo. bien que j'étais cofondateur d'une école multinationale que nous avions placée à Franceville.
Au Gabon.
Au Gabon, c'était pour former nos jeunes pilotes de demain. Malheureusement, même au Gabon également, l'école a pratiquement disparu. Et dans l'AC, voyez-vous-même où se trouve la société aujourd'hui, c'est bien de dire commandant Ilunga ici, commandant Diastola là-bas, mais si nous regardons chaque fois derrière nous, nous ne voyons pas cette jeunesse qui pouvait nous remplacer, surtout nous transporter nous-mêmes. Ma véritable joie aurait été
de former d'autres pilotes,
de voir des jeunes après moi. Et ne les ayant pas, je vous assure, j'ai beaucoup de choses que j'aurais pu montrer à ces jeunes gens, même si demain nous en formons, mais ils n'auront pas ce que nous, nous avions découvert, parce que nous avons découvert trop de commandants des soleils.
Chozi yango yote na malizika, siye nitalala na nani, we unaenda. Siye paka ni mawazo, siye paka ni kuwaza waza, we unaenda, naenda. Kama ile njia ya kuenda, kama ni maisha ya kupata, we dada, welo, 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 sita tuwe, welo. Paka ni mawazo, hakuna ni asango. Kama we unaenda, we unaenda, we unaenda.
Dirigeants des institutions publiques et privées, responsables des syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche à partir de 7h, heure de Kinshasa.
Aujourd'hui, Grand Témoin vous fait découvrir le commandant Île-Défense Ilunga Mikanda, premier pilote congolais et président de l'Association des pilotes de ligne du Congo. Commandant Ilunga, en ce qui concerne les heures totales de vol, vous avez 20 060 heures de vol sans accident, il faut le préciser. Quel type d'avion avez-vous piloté dans votre carrière? Je sais qu'il y en a beaucoup, citez-en les grands.
Non, je peux vous les citer tous. Hein. J'ai commencé par, comme je vous ai dit, le planeur, et ensuite le monomoteur, qui est le Tagamot, et ensuite le bimoteur, le Cessna 310, avec le Baron Beach 55. Il y a le Beechcraft de 18, hein, juste après le Baron B55. Ensuite, je suis passé sur DC-3, j'ai fait le DC-4, j'ai fait le DC-6. Et ensuite, j'ai dû faire le Fokker, hein, quand la compagnie achetait des Fokker. Après le Fokker, directement, nous sommes passés sur les Caravelles, 11R. Là-dessus, bien sûr, je passais copilote commandant. Quand nous étions en pleine formation de même la charge de Caravelle 11R, le pays s'est doté des DC-8 et des DC-10, mais le présent retour, avec bien sûr notre participation, notre concours, avait préféré plutôt qu'une passion sur DC-10. Et c'est là, effectivement, ayant vu ce que nous avons fait en caravelle, ils nous avaient posé la question si nous étions capables d'aller faire le DC-10, qui était d'ailleurs un avion qui a suscité beaucoup de débats d'ailleurs autour. Hein. D'abord, on est noir, on est jeune, on n'a pas assez d'heures de vol, mais enfin, finalement, Douglas a accepté de nous recevoir et en démontrant que chez eux, si on a la tête, on peut piloter.
Peu importe l'âge, c'est l'âge de la peau.
C'était la tête qui comptait beaucoup pour lui.
Et vous avez aussi été pilote d'essai sur Concorde, Airbus.
Oui, là, je ne t'ai pas dit que j'étais pilote Concorde, mais Airbus. L'Airbus, c'est quand c'est arrivé ici. Bon, le président Routou voulait acheter les Airbus. Malheureusement, l'Airbus n'avait pas la capacité qu'il fallait pour notre pays. Et ensuite, il voulait aussi acheter le Concorde. Et là, il nous demandera d'aller un peu voir, après l'arrivée du président Giscard d'Estaing, quand il est venu ici en tournée présidentielle, maintenant, le Concorde 002 français devait rentrer à Toulouse, et Mobutu avait demandé si nous pouvions aller voir et venir lui faire un rapport. Voilà comment nous sommes reposés sur le Concorde 002.
Commandant, il défonce Ilunga, 20 060 heures de vol sans accident. Comment un pilote doit normalement préparer un vol?
Le vol se prépare d'abord dans la sérénité, dans le sérieux. On doit savoir que ce qu'on va faire demain, d'abord, sa préparation à la maison d'abord. On a le plan de vol, on sait ce qu'on va faire. Et par conséquent, déjà, à la maison, on commence à regarder à gauche, à droite, les pistes, tu vois, les données, les performances et tout ça. Faut bien lire, il faut être à jour, hein. Même ce qu'on a étudié à l'école doit toujours revenir dans notre préparation de vol.
Vous le savez, la semaine passée, l'actualité est restée dominée par le crash de l'avion de la compagnie Ewabora. Sur 136 crashs en 2007 dans le monde, la RDC à elle seule en a connu 8. Qu'est-ce qui se passe, commandant Ilunga? Le ciel congolais est-il maudit?
Non, le ciel congolais n'est pas maudit. Plutôt, c'est le Congolais qui ne prend pas au sérieux ce métier-là. C'est un métier extrêmement dangereux. Pas tellement dangereux dans ce sens que si on s'y prend avec beaucoup de sérieux, le danger peut être écarté. Mais lorsque on ne veut pas comprendre que c'est un métier extrêmement dangereux et qu'il faut minimiser ce danger en préparant ce vol, en lisant et puis en regardant quel genre d'avion vient chez nous, répondent-ils aux normes ou pas? Est-ce que les pilotes qui sont formés sont-ils bien formés ou pas pour justement piloter ces avions-là? Est-ce que la réglementation de l'aéronautique civile est bien suivie? Est-ce qu'il y a des contrôles réguliers dans notre pays pour essayer d'élaguer là où il y a des failles? C'est ça l'aviation. L'aviation n'est pas se lever, je prends l'avion, je mets les galons, et puis je m'en vais. L'avion n'est pas seulement, je prends l'avion qui est rempli, hein, parce qu'il rapporte beaucoup d'argent à la compagnie, et en avant, marche. L'aviation n'est pas un PDG qui voit son avion, qui doit donner des ordres, hein, à tort à travers à ses pilotes, à ces gens qui sont au sol. L'avion n'est pas un engin où n'importe qui peut le remplir comme il veut, voyez-vous.
Il y a des normes qu'il
faut respecter. Hein. Il faut se plier à ces normes. Et il faut les accepter. Et lorsque le commandant de bord dit, il sait exactement pourquoi il le dit, et s'il est en tort, s'il a dit autrement, il doit être sanctionné, il doit être entendu. Vous comprenez? C'est ça que moi je plains. Pendant que nous volions à Air Congo, nous avions d'abord trouvé une discipline. Je dois vraiment louer la discipline que nos collègues blancs que nous avions trouvé ici, ils nous ont donné cette discipline-là. Et ils nous répétaient toujours, comme on nous a répété à l'école, attention, vous allez dans votre pays, allez montrer ce qu'on vous a montré. Ne changez pas de méthode. L'aviation ne s'invente pas. L'aviation, on suit ce qu'on dit.
En ce qui concerne l'entretien régulier des avions, en principe, un avion doit faire un check-in, c'est-à-dire un contrôle, après un certain nombre de vols. Mais ici, en RDC, l'entretien des avions se fait lorsqu'il y a disponibilité. Nos collègues d'Okapi Action ont, à cet effet, posé la question à un technicien d'aviation d'une grande compagnie de la place. Il répond.
Normalement, l'avion doit rentrer toujours en entretien. Après quelques vols, l'avion rentre en hangar pour la maintenance. Bon, ça dépend, parce que nous ici, quand nous avons un jour de repos, par exemple le lundi, il y a d'autres avions qui ne volent pas. Bon, on regarde sur les trous de report tous les défauts que les commandants ont détruits. Les défauts qu'ils ont trouvés en vol, on les amène dans les terres et nous les inspectons en cherchant les procédures de la maintenance. Les entretiens des avions. Quand nous avons la disponibilité de l'avion au hangar, on ne les laisse pas comme ça, on regarde. S'il y a des problèmes, on les résout.
Réaction au commandant Ilunga.
Oui, quand j'entends parler, effectivement, c'est ce qui s'est fait, mais je dois dire que d'abord, vous savez, quand vous allez en Guinée, que vous voyez là où sont placés les avions, ces hangars-là, c'est déplorable. Un avion se place déjà, ne fût-ce que dans les lieux où on doit
le garder,
doit donner confiance. La tenue même que possède le mécanicien doit donner confiance.
La santé du mécanicien.
La santé du mécanicien. C'est comme pour les pilotes également. L'outillage même que le mécanicien possède. L'environnement lui-même. Tout ça s'ajoute. C'est-à-dire que quand vous regardez les ateliers des pays étrangers, on vous présente un avion qui est en atelier, qui est en inspection. Mais déjà, vous vous sentez compliqué. Mais ici, chez nous, quand vous entrez dans cet atelier, c'est comme si vous trouvez dans un parking, quelque part, ici, à la cité, chez nous. Vous ouvrez de l'huile dans tous les sens, de l'essence par terre, vous trouvez des seaux à gauche, à droite, mais ne fût-ce que cet environnement-là doit donner confiance pour absolument entretenir un avion dans des conditions fiables.
Que faut-il, à votre avis, commandant Ilunga, pour relancer l'aviation congolaise, redonner confiance aux passagers, aux voyageurs, aux touristes?
C'est un long processus qui a existé pourtant, mais ça a été cassé. Je ne sais pas si est-ce que c'était volontaire ou involontaire, mais j'ai souvent constaté que les décideurs, chaque fois que je parle de décideurs, pour moi, les décideurs, c'est dans le cadre de l'entreprise civile. Il y a une direction qui, en principe, devrait avoir des experts, non seulement qui entretiennent, mais qui viennent contrôler, qui viennent dire même ce qu'on doit faire et dans quelles conditions on doit le faire. Et les autres ne devraient que suivre, voyez-vous. Et si on veut relancer tout cela, c'est aux décideurs. La volonté civile, elle est là. La RV elle-même, elle a ce travail-là. Les compagnies aériennes, lorsque même ils prennent des avions, mais ils doivent savoir exactement comment se traite un avion.
Donc si je comprends, c'est un problème de volonté politique.
Non sans volonté politique, même volonté de chacun de nous.
Ouais. Nous tendons lentement mais sûrement vers l'atterrissage. J'espère que votre ceinture est toujours en place, commandant Ilunga. Nous avons contacté quelqu'un. Je vous invite à suivre le témoignage que cette personne fait de vous.
Bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter aux auditeurs de Radio Okapi et dire qui vous êtes par rapport au commandant Ilunga?
Par rapport au commandant Ilunga, je suis son nom comme affaire belle. Je m'appelle André-Joseph Njaté.
Monsieur André-Joseph Njaté, vous avez grandi ensemble avec le commandant Ilunga.
D'abord, c'est un enfant de bonne famille. Il aimait bien étudier. Il avait un père qui le suivait. Il était intelligent à l'école. Il aimait jouer comme tous les enfants.
Pouvez-vous nous raconter un souvenir d'enfance qui vous a marqué ensemble?
Bon, un souvenir qui nous a marqué ensemble, c'est que je me rappelle que avant, il m'appelait André. Et sa maman a dû intervenir un jour pour lui dire qu'il ne faut pas appeler André, il faut l'appeler tonton, parce que c'est ton oncle. Mon frère. Donc, il ne comprenait pas avant que moi, qui avais pratiquement, enfin, presque son âge, je sois son oncle. Sa maman a dû intervenir pour remettre les choses en ordre.
Dans votre jeunesse, y a-t-il quelque chose qui le prédestinait à ce qu'il est devenu aujourd'hui, dans la jeunesse déjà?
Ah, je pense, parce qu'il aimait toujours faire mieux que tous les amis, et il pensait beaucoup, beaucoup à quitter le Congo pour étudier en Europe, et ce rêve s'est réalisé finalement, parce qu'il est allé faire sa formation de pilote en Europe. Et à l'époque, on imaginait difficilement qu'on voulait devenir pilote. Ben, et voilà, aujourd'hui, il est là, il est pilote. Un des meilleurs, d'ailleurs.
Vous venez de le dire, il a été très populaire au pays. Et qu'est-ce que ça représentait pour vous?
La fierté que ressent tout parent qui voit son enfin, membre de sa famille émerger. C'est la fierté. Parce que quand j'assiste à un meeting où le président de la République le cite comme étant un des meilleurs fils de ce pays, un pilote qui fait l'orgueil, la fierté de Zaïre à l'époque, je trouvais qu'elle soit fière.
Pour clôturer ce petit entretien, Monsieur André, pouvez-vous lui adresser un message?
Je l'aime toujours. Je l'aime toujours. Et je voudrais qu'il continue à former d'autres pilotes à condition qu'on mette les moyens à sa disposition. Parce qu'il a, il remplit toutes les conditions pour le faire.
Merci beaucoup, Monsieur André, et bonne journée.
Commandant, il défonce Ilunga. Je vous ai vu plusieurs fois rire, sourire, réaction.
Bon, je dois d'abord saluer Guillaume André. Merci beaucoup pour son témoignage. ça m'a surpris parce que je ne m'attendais pas à entendre cette réaction. Merci beaucoup, en tout cas, Guillaume.
Bon, nous allons atterrir. Je baisse déjà les manettes pour toucher la piste. Un mot à tous les jeunes Congolais qui vous suivent et qui aspirent au métier de pilote.
aux jeunes de ne pas se décourager, même si cette école n'a pas encore vu le jour ici, qu'ils gardent l'espoir. Ceux qui ont encore 14-15 ans, ils vont certainement arriver parce que le pilotage commence à 18 ans. Et ceux qui ont déjà dépassé cet âge de 18, même à 30 ans, ils peuvent toujours le devenir. Mais prions ensemble pour que notre pays comprenne que c'est un métier qui doit être tenu par les enfants de ce pays. Nous devons piloter nos avions. Nous ne pouvons pas toujours attendre que les autres viennent piloter pour nous, nous déposer en vacances à l'intérieur du pays ou ailleurs. Il faut que nous soyons aussi fiers un jour de dire, nous avons nos avions, nos hommes à nous, c'est-à-dire nos pilotes à nous, et nous devons les développer comme les autres pays du monde.
Vous pouvez desserrer votre ceinture, commandant Ilunga. Nous avons atterri après avoir réussi un vol sans fausse note. Merci d'être venu à Grand Témoin.
Merci.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que nous recevions Ildefonse Ilunga Mikanda, premier pilote congolais et premier commandant congolais du DCDI, c'est président de l'Association des pilotes de ligne du Congo. Retrouvez cette émission sur le site Radio Capi, www.radiocapi.net, où vous pouvez réécouter toutes les émissions de Grand Témoin. À la présentation, Alain Irung, à la technique et à la réalisation, Héritier Chilien Kala. Restez avec nous sur Radio Capi.